Bureau Vallée.
Une imprimante pour 8, c'est peu.
T'inquiète, on reçoit la nouvelle imprimante multifonction HP Office Jet Pro tout à l'heure.
Une chacun?
Pas besoin. Elle est ultra performante. Vitesse d'impression jusqu'à 22 pages par minute.
Ah oui, rapide.
L'imprimante multifonction jet d'encre HP Office Jet Pro 9730 qui imprime en recto verso automatique jusqu'en A3 est à seulement 179,90€.
Professionnel, démarrez l'année du bon pied avec Bureau Vallée.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Jusqu'au 24 janvier. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr.
C'est vrai.
C'est très important.
Je confirme.
Mauro, c'est vous qui mettez en scène Catherine Ringer, donc sur scène, cet érotisme de vivre qui part en tournée. On va tout vous raconter. Tous les deux, vous vous êtes rencontrés en 2002 sur une comédie musicale qui s'appelait Concha Bonita. C'est ça. Vous jouiez le rôle-titre, Catherine ?
C'est ça, je jouais la Concha.
La Concha, et vous étiez l'amant de Concha.
Le secrétaire amant.
Secrétaire amant, c'est bien, faut toujours faire plusieurs choses. Il faut se rendre utile.
C'est ça. C'était une drôle d'histoire, c'était l'histoire d'un footballeur argentin qui était transsexuel, disons, et était arrivé à Paris. En emmenant ses couilles dans le formol qu'il avait mis dans le buffet.
Dans une boîte.
Oui. Ça faisait une chanson où il disait « Eh, mes couilles sont dans le formol !» ou je ne sais plus quoi. Et donc, il avait pris avec facilité une femme pour jouer un homme trans. Mais bon.
En tout cas, c'était votre point de départ,
voilà.
À vous. Et donc, vous vous êtes retrouvés en 2021 autour de cet érotisme de vivre. Au départ, un spectacle pour la réouverture du théâtre de la Huchette après le Covid. Mais en fait, c'est vite devenu un projet important au long cours autour des poésies d'Alice Mendelssohn. Alors, qui était-elle, Alice ?
Alice Mendelssohn, née en 1925, fut une petite fille très heureuse dans les rues de Paris où elle avait la chance d'aller jouer. Son père était et ses parents tenaient un salon de coiffure. Et puis, pendant la guerre de 39-45, comme ils étaient d'origine juive, son père a été pris aux Veldives, etc. Et ça a beaucoup l'a marqué. Elle et sa mère ont pu s'échapper grâce à la police française. Qui ne les a pas arrêtés, ils les avaient prévenus, donc elles sont parties dans le sud, là, en zone libre. Elle a été résistante à ce moment-là, et après elle est devenue une professeure de français passionnée, parce qu'elle était passionnée de français, c'est même elle qui l'a appris à ses parents, en fait, qui venait de Pologne et qui parlait surtout le yiddish, et elle est devenue... une professeure passionnée, ensuite elle a pris sa retraite il y a bien longtemps et elle est devenue conteuse, elle a raconté des histoires, elle s'occupait d'ateliers d'écriture et elle a rencontré mon père dans les années 82-83 parce que... c'est pas trop long.
Non, ça m'intéresse. Okay. Donc votre père Sam Ringer.
Mon père, oui. Mon père Mauro... Mon père Sam Ringer, comme il disait, ouais. Et qui était peintre, et ils se sont rencontrés dans un vernissage et ils sont devenus très amis. Ils ont eu 4 années d'amitié comme ça, très belle, où il me racontait d'ailleurs rien du tout parce qu'il faisait pas. Bon, c'est trop long là, je m'arrête. Okay. Allez, une autre question.
J'enchaîne.
Ouais.
1925-2025, pendant toute sa vie, Alice Mendelssohn, elle a écrit des poèmes. Et donc, vous en avez sélectionné pour ce spectacle, L'érotisme de vivre.
Avec Mauro d'ailleurs.
Avec Mauro,
justement,
ouais,
c'était
ensemble.
À la base de la sélection. D'abord, a été sélectionné par un conteur, Pascal Quéret, qui s'était occupé de tous ces textes, parce qu'en fait, il y en a plein d'autres.
Ouais.
Je ne sais pas.
Et même dans le livre, il y en a d'autres d'ailleurs. Il n'y a pas que ceux du spectacle.
Ah, oui.
Voilà,
oui.
Il y en a d'autres.
Et ce qui est, j'ai trouvé vraiment touchant quand Karim m'a parlé pour la première fois d'Alice Mendelssohn, c'est qu'en effet, elle, à partir juste après la guerre de 1946, elle n'a jamais arrêté d'écrire des poèmes jusqu'à ces derniers jours, parce que on a mis dans le recueil des poèmes qui ont été dictés parce qu'elle pouvait pas écrire quelques mois avant sa mort. Donc c'est une vie dans le signe de la poésie, des poèmes et de l'érotisme, parce qu'elle était une femme, on peut dire, libre, une femme qui a aimé énormément la vie et elle a aimé aussi des hommes.
Et vous l'avez beaucoup aimé, Alice Mendelssohn. Vous racontez, Catherine, dans la préface de ce livre qui vient de paraître, qu'elle vous a même inspiré une chanson sur votre album Chronique et Fantaisie. Vous cherchiez un thème, vous lui avez demandé un thème.
C'est ça. Et j'étais allée chez elle pour écrire, parce que des fois, quand on fait un album ou une série de chansons, il manque quelques textes et souvent je vais ailleurs pour me concentrer et faire. Et là, je me suis dit, tiens, si j'allais chez elle et je cherchais un thème, je lui ai demandé, elle me l'a donné, j'ai dit d'accord, je l'écris. Elle m'a dit, un homme qui attend une femme. Et en fait, maintenant que j'y repense, quand je lis ses poésies, souvent c'est elle qui attend un homme. Oui. Donc elle a dû se dire, si je faisais à écrire par Catherine, un homme qui attend une femme.
Et un homme qui attend une femme, eh ben ça donne ça, leur amour. Écoutons cette magnifique chanson et soyons heureux, les amis, de recevoir ce soir dans Décibel Catherine Ringer et Mauro Gioia.
Ça commence à faire long. Depuis là, sa femme. Depuis le temps que je t'attends. J'ai la patience et j'ai confiance en toi. Je sais qu'un beau jour.
c'est quand même beau, Catherine Ringer, leur amour, un thème donc inspiré par Alice Mendelssohn et l'érotisme de vivre. Là, ce sont carrément les textes d'Alice Mendelssohn, certains dits par vous, Catherine, accompagnée au piano par Grégoire Hetzel, d'autres en chansons composées avec Mauro Gioia, ici présent, qui signe également la mise en scène. Alors, Mauro, vous me permettrez une petite métaphore italienne, mais comme c'est vous qui mettez en scène Catherine, c'est pas trop compliqué de demander à une Ferrari de rester dans un cadre et de se brider ?
Disons que plus ce sont des Ferrari, plus c'est facile à conduire quand on a des vrais Ferrari. Hein. Pas des Ferrari qui sont pas des vrais Ferrari parce qu'il y en a, mais là, dans ces cas-là, c'était assez naturel et très 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 beau et on s'est concentré vraiment sur les choses les plus importantes. Donc, qu'est-ce qu'on voulait qui arrive au public? De quelle manière la musique peut aider et les silences peuvent aider ces poèmes? Donc, ça a été un parcours. Moi, en plus, j'ai toujours pas aimé les spectacles très mouvementés où il y a des gens qui rentrent de droite, sortent de gauche, arrivent du fond, ils changent 40 costumes parce que moi, je préfère qu'on soit concentré vraiment dans l'âme des choses et Catherine, elle est idéale pour ce genre de travail et tout est dans les timbres, dans sa sensibilité. Mais c'est vrai, Catherine, tu sais, je te l'ai dit plusieurs fois.
Et tous les deux, vous étiez d'accord dès le début, il fallait quand même une présence de la musique.
C'était en fait, pas moi, juste les textes. Quand j'ai demandé à Mauro, j'en savais rien. Je lui ai dit, tiens, tu pourrais m'aider à choisir des textes et les mettre sur la scène pour la Huchette. Et puis, est-ce qu'ils te plaisent d'abord? Puis, et ça lui a beaucoup plu. Donc, si ça lui avait pas plu, il l'aurait pas fait. Et puis, c'est là qu'il m'a dit, mais tu vas pas ne faire que dire pendant une heure et demie, ça va être
j'ai
trop
cet accent.
Ennuyeux.
Vous le tenez non, pas j'ai cet accent. Tu peux le refaire.
Tu peux le refaire, mais non, moi ça fait tout de suite.
Vous m'avez dit que j'avais perdu suite. D'accent, ça hein, fait... quand même. Après, c'est longue période.
Ça fait Europe centrale, moi, tout de suite. Alors que ça n'est pas Europe centrale, c'est Europe de l'Ouest, l'Italie, quand même.
Voilà à quoi ça ressemble, l'érotisme de vivre en tournée. Vous serez samedi soir à Tulle, ou Toul, comme dit Mauro.
Oui, Tulle. Pardon.
C'est pour les accents. Toulouse le 21 janvier, donc la semaine prochaine, 23 janvier à Saint-Gély-du-Fesc, le 30 janvier à L'Homme, le 31 à Deauville, et puis en février à Saint-Luce-sur-Loire, Le Havre, Paris, au Théâtre de la Ville, au mois de mars à Vaux-en-Velin. Petit teaser, comme on dit, ni en français ni en italien.
3 août 2018. Pour bien vieillir, il faut avoir le vice de la joie. Si tes doigts bavards chuchotent partout ce qu'ils ont entendu, mes joues seront violentes et mes yeux irradiés. Oh, je crie délivrance!
De vivre en tournée, vous l'avez compris, et les textes du spectacle, plus d'autres poèmes d'Alice Mendelssohn, édités donc chez Point, cette collection poésie, dirigée par Alain Mambancourt. On en a déjà parlé avec John Baez, ces textes ont été aussi édités de la même manière. Alors la poésie, ça c'est un sujet intéressant, je me dis parfois c'est un peu l'opéra de la littérature, c'est-à-dire les gens ils ont un peu peur de la poésie, ils se disent c'est pas pour moi. Est-ce que vous avez une relation de toujours avec la poésie, Catherine?
J'ai une relation de toujours. Dans le sens où je me souviens que quand j'étais à l'école primaire, on demandait toujours qu'est-ce qu'on voulait faire comme métier. Et on disait, à l'époque, c'était pas mixte l'école.
Ouais.
Et donc, on en était la plupart en train de dire maîtresse d'école. Et puis, il y en a une qui a dit actrice. Je dis, mais c'est beaucoup plus chouette. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, eh ben, moi, je vais faire poète. Parce que j'aimais bien écrire des petites poésies. Et donc, j'ai bien réussi, finalement, parce que dans les chansons, c'est ce qu'on fait.
Ça, c'est une vraie question. Est-ce que chaque chanson est un poème mis en musique? Et à l'inverse, est-ce que quand on retire la musique d'une chanson, est-ce qu'elle devient automatiquement un poème?
Vous voulez dire en général toutes les chansons du monde? Non.
Les vôtres?
Ah, les miennes?
Bah oui. Les autres, on s'en fiche.
C'est comme quand on souhaite la bonne année à vous et à oui, ceux que vous aimez
c'est
autour.
Ça, mais surtout pas les autres.
Les autres, on s'en fiche. Certaines, oui, et certaines, non, je trouve, parce qu'il y en a qui sont plutôt des histoires qu'on raconte. Qui est-ce que j'ai vu ? C'est Gotener, par exemple, oui, qui disait ses textes oui, de ses chansons sans la musique, et c'était magnifique, tout le rythme, etc., et les rimes. J'ai beaucoup apprécié ça. Et alors, bon, pour revenir à nos moutons, qui sont les miens, pas toutes, je trouve. Il y en a, on pourrait dire que c'est poétique et d'autres moins. Lesquelles, allez-vous me demander peut-être.
Lesquelles, Catherine ?
Je sais pas, Marcia Baila, par exemple, on pourrait prendre les chansons connues. Oui, on peut dire que tous les couplets sont assez poétiques, puisque dans le sens qu'on comprend rien.
Oui, en tout cas, c'est hyper imagé. Et c'est vrai, on peut ne pas comprendre.
Je suis un peu cynique. Mais oui, il y a des poésies, des poèmes qui sont... Pardon, des chansons... Oula, bon, on...
Il y a des chansons qui, déshabillées de leur musique, oui, deviennent des poèmes.
Merci.
Voilà. Et ça, c'était ma question, et merci d'avoir répondu.
Déshabillez-moi.
C'est un poème.
Ça me fait un pont parfait pour arriver à l'érotisme.
Voilà.
Puisque, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en France, on est très fort au niveau chanson paillarde. Alors ça, dès que c'est pouette-pouette, mon cul sur la commode, ça marche très bien. En revanche, l'érotisme, ce n'est pas forcément notre spécialité. Je demande, tiens, à Mauro qui est italien, vu d'Italie, est-ce que la France est érotique ?
Mais comment vous dites ça ? Mais évidemment.
Mais quelles chansons pays... érotiques ?
Mais non, mais c'est les pays de l'amour. Paris, c'est la ville de l'amour, de l'érotisme. Nous, on a toujours imaginé ça, nous étrangères.
Oui.
Je ne vais pas dire que je suis venu en France pour ça, mais quand même, moi, j'ai fait une liaison naturelle entre la France, la langue française parlée. Moi, je ne peux pas oublier même la langue parlée française. Ouais. Elle a quand même beaucoup plus que l'italienne, une tonne érotique, si on veut.
Ah, mais ce serait quoi alors la définition de l'érotisme et de plus l'érotisme de vivre, parce qu'en fait, pour dire en langage Jones, en fait, c'est le kiff permanent de tout, c'est de trouver
oui,
du plaisir
ça,
partout.
Oui, de trouver de l'intensité de vie, de la beauté, un désir vital dans les choses qui nous entourent, et c'est ça qu'on trouve dans ses poésies à elle.
Ouais.
Et puis il y a pas mal de gens qui m'ont dit mais c'est un érotisme en fait, c'est une femme qui parle aussi de l'amour, de l'effet que lui fait l'amour physique, l'amour oui, aussi général quand elle est vraiment amoureuse, et c'est pas si souvent, il paraît.
C'est très rare, c'est très très rare. Et parfois, il y a des textes qui sont vraiment avec des mots très crus, les mots du corps, du sexe, il y a du sperme, il y a des... Enfin voilà. Et parfois, c'est beaucoup plus poétique, imagé. Et puis parfois, on est même très loin du sexe, comme quoi l'érotisme n'est pas forcément lié au sexe.
C'est vrai, parce qu'elle est un peu partout, l'érotisme, dans ses poèmes. Parfois, moi, par exemple, la première lecture de certains poèmes, je me disais, mais de quoi elle parlait ? En effet, elle parlait à son petit neveu et elle parlait de choses de cuisine et de tout ça, mais il y avait comme un sous-entendu de quand même d'érotisme. Donc c'est un peu aussi sa manière d'approcher l'écriture, probablement.
Mais c'est aussi elle qui a trouvé ce titre de l'érotisme de vivre, et je pense que c'est son côté coquin, disons, son humour aussi, c'est quand même quand elle dit pour bien vieillir, il est bon d'avoir le vice de la joie.
Ouais.
Bah en fait c'est pas un vice, c'est par rapport
parce que ça, si ça devient un vice, quand même, il y a quelque chose de plus érotique plutôt
c'est
que
ça, si
juste
c'est un peu
la joie.
Ah oui, c'est ça.
Ça doit être ça.
Bravo. Alors il y a une chanson d'Erita Mitsuko que je trouve très érotique, et c'est grâce à votre texte, Catherine. C'est Ding Dang Dong Ringing at Your Bell, ou comment l'envie monte au réveil, et comment on va l'assouvir pas.
Oui.
Eh bien allons-y. Assouvissons les amis, on est là pour ça. L'Erita Mitsuko, Ding Dang Dong. Et Catherine Ringer, Mauro Gioia, qui nous racontent l'érotisme de vivre dans Décibels, en direct.
Les jour se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'un côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est un parfait. Par la fenêtre ouverte triomphe l'été. J'irai bien danser avec les feuilles du peuplier. La lune pâle traîne encore un peu. Regarde-la, elle ferme les yeux. Oh, mon amour, la valeur pour s'aimer. L'aurore tombe fort, fait couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte, triomphe.
Belle Rita Mitsouko, restez bien à l'écoute d'ici les amis, puisque dans une minute, on est des vénards. Catherine Rager va nous lire en direct un texte d'Alice Mendelssohn.
Bonjour, c'est Stéphane Bern.
Réveillez-vous chaque matin avec Ici et laissez-vous surprendre par l'histoire de France.
Nous sommes le 28 avril 1792 à Marseille. Ça chambre, ça avise, ça tire, jusqu'au moment où l'un des projectiles ricoche.
Stéphane Bern voyage dans le temps.
Et atteint la réserve de poudre.
Écoutez Ici chaque matin, juste avant les infos de 8h.
Et à tout moment sur ici.fr.
Ici partenaire. En janvier, Ici aime le magazine Cuisine Actuelle. Une cuisine gourmande, saine et accessible pour toujours plus de plaisir et de découvertes. Chaque mois, retrouvez des producteurs et des artisans locaux passionnés, des saveurs authentiques et des recettes originales. Ce mois-ci, direction les marchés des Hauts-de-France à la découverte des meilleurs produits régionaux et de saison. Un événement Ici.
La conquête de l'aiguille de la République dans le massif du Mont-Blanc par deux alpinistes français en 1904, racontée par Sylvain Tesson.
La folie des hauteurs, le podcast d'Ici Isère pour découvrir des histoires de montagne à couper le souffle.
Comment Hippolyte-Émile Bojard et Joseph Simon parviennent-ils au sommet de cette flèche de granit?
C'est ce que vous découvrirez dans En plein dans le mille, Sylvain Tesson et l'aiguille de la République, un nouvel épisode de la série de podcasts La folie des hauteurs.
À écouter gratuitement et quand vous le voulez sur l'appli Radio France et ici.fr.
Ici.
Ici.
Ici. Vous écoutez Ici.
Ici.
Ici, chaque soir, toute
toute l'actu musicale est dans Décibel. Émilie Mazoyer.
Double programme ce soir dans Décibel. Nash Chédid va nous rejoindre pour nous parler de Daniel Balavoine à l'occasion des 40 ans de la mort de Daniel Balavoine. Il y a une soirée spéciale qui va commencer à 21h sur votre radio ici. Et puis là tout de suite, on pense, on vit érotique grâce à l'érotisme de vivre les textes d'Alice Mendelssohn et le spectacle de Catherine Ringer mis en scène par Mauro Gioia. Ils sont tous les deux nos invités. Alors Catherine, vous avez devant vous le beau livre qui est sorti aux éditions Point. Vous avez choisi un texte d'Alice Mendelssohn pour nous.
Oui. Sable mouvant, la plage cambrée, la grande place découverte de tes lèvres où mon repos a le calme de l'eau sous les arbres. Mais soudain, l'eau se muscle, se plaque et cerne mon désir somnolent de prison chaude. Le moelleux de ton baiser dense, sable mouvant, où je danse, où je valse et me débat, dans un plaisir renouvelé, où la chair la plus profonde est happée en une ronde souterraine. Sable mouvant, où je danse, et d'où jaillit la flèche de ton baiser dense. L'invitation forcée, la fulgurante résonance au travers de mes terres soulevées d'agonie.
Merci Catherine. Waouh, Alice Mendelssohn. Donc ça fait partie des textes du spectacle.
Oui.
Ok. Waouh. Eh ben, c'est ça la poésie en fait. C'est-à-dire, j'ai pas tout compris.
Voilà,
mais ça m'a fait quelque
comme
chose.
Ça, ouais. Il y en a des plus simples. Par exemple, ronde. Il est passé par ici, celui que j'aime et qui ne m'aime. Il est reparti par là. Celui que j'aime n'entend pas. Le désir que j'ai de lui, je le lui cache, qu'il ne m'attache. Le désir que j'ai de lui, c'est pour les larmes de la nuit.
Oh, ça finit moins bien, celui-là.
Mais non, parce qu'il est beaucoup plus long. Hein.
C'est ça.
Oui, oui, ça finit bien. Et ça finit par... Allez, je passe tout le centre. Il est passé par ici, celui que j'aime. Celui que j'aime, il repassera par là. Celui que j'aime m'aimera.
Ah, oh, j'adore, j'adore. Les poèmes d'Alice Mendelssohn, dit ou chanté par Catherine Ringer, l'érotisme de vivre, Mauro Gioia et le metteur
Grégoire
en scène.
Hetzel, oui. Qui est un compositeur de musique de film assez reconnu maintenant et apprécié, qui joue du piano et du synthétiseur.
Avec vous sur scène. Alors moi j'ai eu la chance de le voir, ce spectacle, à Paris, au théâtre de l'Atelier. Et je me souviens, en sortant du spectacle, avoir eu très envie de lire les poèmes d'Alice. Alors maintenant que c'est disponible aux éditions Point, je le rappelle, est-ce que vous préféreriez tous les deux qu'on lise les textes avant de voir le spectacle ou bien qu'on les découvre avec vous sur scène et qu'on aille les lire après ?
Les deux, tout me va, moi.
Même après ? Pour avoir quand même l'étonnement, la surprise de le découvrir dans un contexte et après de retourner et de le relire.
Ouais. Moi j'ai aimé en tout cas les découvrir avec
oui.
vous et ensuite pouvoir
Parce
aller chercher les détails. Ouais.
Oui.
Comprendre, revivre des moments, mais en ayant du coup votre voix dans l'oreille aussi, Catherine, et ça aide à la lecture de la poésie, ça, d'avoir une voix.
Oui, c'est vrai, mais je pense que de toute manière, même si on les lit comme ça avant, on n'aura pas la même sensation et ouais. on ne comprendra pas exactement la même chose. Et même peut-être on sera content de les retrouver dits.
Ouais, oui, bien
les
vrai.
Deux peuvent être se disent et se disent.
Vous avez toujours été une chanteuse très physique sur scène. Vous bougez, vous donnez, vous projetez, vous dansez. Est-ce que l'érotisme de vivre appelle à un peu plus de calme? Ou est-ce que, parce que là, quand vous avez lu, je vous ai senti bouger derrière
oui.
le micro. Est-ce que c'est aussi très physique, les
oui.
poèmes?
Oui. Il y a beaucoup d'énergie, hein. Non, énormément d'énergie, même une énergie qui est intérieure, une grande tension qui fait revivre ses vers. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que la musique, ça a été choisi parce que c'est intéressant ce que vous avez dit avant, quand vous avez dit le poème, c'est un peu comme l'opéra. Et c'est
oui,
vrai,
c'est
parce que moi, la première chose, quand
ouais.
Catherine m'a parlé de ce projet, je me suis dit, il faut de la musique, et surtout, il faut un compositeur qui soit capable d'improviser et de suivre et de faire vivre chaque soir le spectacle, les poèmes, grâce à la voix de Catherine, d'une manière différente pour qu'ils soient vivants. Et c'est pour ça que Grégoire était vraiment la personne idéale, parce qu'il vient du monde des musiques de films. Il est, comment dire, capable de faire vivre et changer avec des petites variations soir par soir. Et je trouve qu'il fait un secret travail à aider l'émotion sur scène.
C'est vrai, je confirme.
Tous les deux, vous êtes incroyables sur scène, mais je ne pensais pas qu'il y avait une part d'improvisation de sa part. Il vous suit, en fait. C'est ça ?
Ah oui, oui, oui. Il suit. Il suit Catherine. Improvise, il a des grilles, comme disons, pour tous les grands comiques. Il y a un canevas et il change chaque soir aussi.
Ok, alors là, normalement, vous avez très, très envie d'aller applaudir Catherine Ringer. L'érotisme de vivre, la semaine prochaine à Tulle, non, ce samedi, pardon, à Tulle, la semaine prochaine à Toulouse, à Saint-Gilly-du-Fesc, et puis l'Homme d'Auville, Saint-Luce-sur-Loire, Le Havre, Paris, le Théâtre de la Ville, et Vaux en Velin. Est-ce que ça vous donne, cette aventure, envie de remonter sur scène ensemble, puisque c'est là qu'a commencé votre histoire dans une comédie musicale, Catherine Ringer, Mauro de Gioia?
Tu m'avais invité aussi à chanter Nino Rota.
C'est vrai.
Ah oui, magnifique.
C'est vrai, on avait fait un spectacle ensemble sur les chansons de Nino Rota et on avait même sorti un album sur ça et qui sait, peut-être.
Et qu'est-ce qu'on pourrait refaire d'autre? Oui, pourquoi pas.
Ah, j'ai une idée.
Oui.
J'essaye?
Ouais.
Ok. Parce qu'on a parlé des conteurs, des conteuses. Elle était conteuse aussi, Alice Mendelssohn. Oui. Et vous nous avez parlé de Pascal Quéret, ce conteur qui vous a parlé des poèmes d'Alice. Et en fait, je me suis dit, mais vous aussi, en fait, les chansons des Rita Mitsouko, qui sont des contes, des histoires, où vous présentez les personnages et vous racontez un peu leur pérégrination. Eh ben, il y en a quelques-unes. Il y a les histoires d'A, par exemple. Alors, comme on a tous envie de savoir pourquoi Hector est mort, je me disais que vous pourriez faire une comédie musicale des histoires d'A, moi.
Ah, c'est
avec
marrant.
Chaque couple.
Oui.
Et non, mais ce serait génial. Moi, franchement, voilà. C'est mon petit vœu 2026. Mais franchement, moi, je les aime tous. Ce pauvre Hector, quand même, on veut l'aider.
Il a fait une fugue.
Bah oui, il voulait retrouver Gertrude.
Oui. Il est mort.
Ah, mais oui.
Mais c'est vrai, de quoi est-il mort?
Ben, c'est ça, on ne sait pas. Donc
plein
voilà. Écoutez, si on
c'est
se revoit pour ça, pourquoi pas, pour autre chose, évidemment, toujours avec grand bonheur. Et merci pour cet érotisme de vivre qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis pour celles et ceux qui se demandent comment va Hector, il est toujours mort, mais on va vérifier. Les histoires d'A, Rita Mitsouko. Merci Catherine Ringer, merci Mauro Gioia.
Merci les auditeurs d'ici.
Swarda Lerita Mitsuko. Bah oui, un vrai conte, cette chanson, et même une série en 5 ou 6 saisons. Hein.
Ici à 20h, toute l'actu musicale est dans Décibel.
Il y a 40 ans, jour pour jour, Daniel Balavoine nous quittait. C'est assez dingue de se dire que 40 ans plus tard, il est tellement d'actualité, il est tellement dans nos cœurs, dans nos playlists, dans nos souvenirs. Et même, moi par exemple, j'ai une fille de 11 ans qui évidemment n'a pas connu Daniel Balavoine, qui est beaucoup trop petite, mais qui connaît énormément de ses chansons. Voilà, il fait partie de nos vies, il fait partie du patrimoine aussi, je pense. Et quand on se rend compte à quel point sa carrière a été courte, 10 ans de carrière, 8 albums exceptionnels. Et ce soir, on lui rend hommage sur votre radio ici, tout à l'heure, à 21h. Vous allez découvrir toute une série documentaire sonore qui avait été réalisée en 1996, donc pour les 10 ans de la mort de Daniel Balavoine, par la radio qui à l'époque s'appelait France Bleu, donc. Et on va vivre ensemble, voilà, ce soir, tout ce moment d'archives, de musique, de témoignages. Vous allez voir, c'est vraiment très très beau, ça va commencer à 21h. Mais moi, je voulais qu'on commence déjà avant avec Anna Chédid. Nash, bonsoir Nash.
Bonsoir.
Bienvenue dans Décibel, ma chère Nash. Vous êtes autrice, compositrice, évidemment chanteuse, bah oui, interprète. Et vous avez été la directrice musicale d'une magnifique émission en collaboration justement entre France Télé, France 3 ici, qui s'appelait Une journée avec Balavoine. À Biarritz, où vous avez fait chanter du Daniel Balavoine à tout un tas d'artistes très différents. Avant qu'on parle de ces artistes-là, je voulais savoir pourquoi on vous l'a proposé à vous. Est-ce que votre amour pour Daniel Balavoine, il est connu dans le métier ?
Non, pas forcément. Je pense qu'on me l'a proposé peut-être parce que voilà, j'aime énormément la chanson française. Les mots, j'en fais aussi, moi. Donc peut-être qu'il y avait une espèce d'évidence là-dessus. Et puis, je sais pas... Quand on m'a proposé ça, j'ai pas vraiment compris pourquoi, mais quelque part, quand j'ai commencé à travailler dessus, c'était une évidence, c'est-à-dire qu'il y avait plein de points communs et plein de sa sensibilité a vraiment résonné avec la mienne.
Ouais. Mm. Alors, on est de la même génération, donc nous on était petites.
Ouais.
Quand Balavoine est mort, pour autant, il fait partie de vos chansons d'enfance, Daniel Balavoine.
Complètement, bah ouais. Complètement. Dès qu'on allumait la radio dans la voiture en France, quand on était voilà ouais. Dans les années 90, 80, Balavoine passait toujours au moins une fois ou deux.
Et à quel moment vous avez commencé à le chanter ? Puisque là, on va vous écouter chanter en duo avec Fatoumata Diawara, Sauver l'amour. Ça faisait partie justement de ce projet, Une journée avec Balavoine, parce que c'est quand même une tanasse.
Ouais, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à appeler les artistes pour leur dire ouais, ce serait super, j'aimerais vraiment que tu participes à ce projet, que tu chantes cette chanson, ils étaient là, mais t'es folle, je chanterai jamais du Balavoine, c'est beaucoup trop compliqué.
Ouais.
Et en fait, non, je leur disais, mais réinterprète à ta manière, et c'était super beau de se rendre compte que ces chansons qui ont été vraiment écrites pour une voix très très ample et très assurée peuvent totalement s'adapter à plein de sensibilités, ouais. En fait. Ouais. Très universelle, sa musique.
Voilà. Écoutez Nash, mon invité, Anna Chédid, et Fatoumata Diawara, une artiste malienne formidable que vous retrouvez notamment sur les albums de M, Mathieu Chédid, L'Amo Mali. Ensemble, vous interprétez Sauver l'amour, ultime album et tube à titre posthume de Daniel Balavoine, puisque c'est la chanson que voilà, on a tous écouté il y a 40 ans quand on a appris qu'il était mort dans un accident en marge du Paris-Dakar. Nash, Fatoumata Diawara, Sauver l'amour.
Partir effacé sur le Gange, la douleur. Pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur d'une femme qui voudrait trouver en douceur au fond d'elle un reste de lueur, l'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver le peuple danse en douceur,
crois qu'il peut exorciser la douleur. Plus lentement quitter le transe en douceur. Alors reviens dans sa conscience, la douleur.
Au fond d'elle, sans cette peur immense, de voir mourir ce sentiment d'amour intense.
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour, hey. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour, hey. Et comment retrouver le goût de la vie qui pourrait remplacer le besoin par l'envie.
Interprétation, vraiment sauver l'amour, Nash et Fatoumata Diawara. Alors Nash, dans ce programme, une journée avec Balavoine, qui, je tiens à le dire, est toujours dispo sur, on peut le voir encore hein, sur le replay de France Télé, vraiment, ne vous privez pas de ce bonheur. Y a donc vous deux, qu'on vient d'entendre, Louis Chédid. Mathieu Chédid. Et comme c'était pas réservé au Chédid, vous avez invité d'autres gens. Louane, la famille Souchon, Chico et les Gypsies, Gaëtan Roussel, Solane, Robert Charlebois, il y avait Olivia Ruiz, il y avait Youssoupha.
Ouais.
C'était pas évident d'appeler un rappeur à la voix si profonde que Youssoupha pour rendre hommage à Daniel Balavoine qui faisait pas de rap et qui bah voilà, il est mort en 86, donc il est mort au début du rap en France, qu'il a pas eu le temps de s'y intéresser. Pourquoi Youssoupha?
Parce que justement, je trouve que la musique de Balavoine, les chansons sont vraiment donc universelles et peuvent vraiment s'adapter à tous les univers. Et quand j'ai appelé Youssoupha en lui disant voilà, j'ai un peu une idée folle, j'aimerais que tu réinterprètes Vivre ou survivre avec Thibaut Covin à la guitare classique et toi voilà, que tu puisses rapper les mots, chanter cette mélodie et tout ça, il m'a dit direct, j'arrive tout de suite. Et il adorait Balavoine et c'était aussi, enfin, il s'est approprié tout de suite la chanson. Et je tiens à dire ça, c'est que cet album et ce projet, c'est vraiment un album live. C'est que du live et c'est cette énergie aussi de Balavoine. C'est-à-dire que les artistes se mettent aussi en condition de live. Ça permettait aussi de ressentir cette espèce d'urgence, cette espèce d'énergie que Balavoine vraiment, enfin, qu'on ressentait vraiment dans la musique de Balavoine, quoi.
Ouais. C'est vrai que j'ai dit que c'était à voir sur le replay de France Télé, mais c'est aussi à écouter, puisqu'une journée avec Balavoine, c'était tellement bien les lives qu'en fait c'est devenu un album.
Live, ouais.
Il est dispo sur toutes les plateformes de streaming, Apple, Spotify, ce que vous voulez. Ouais. Spotify, ils sont pas très gentils, enfin, c'est mon avis perso, mais voilà. Avec les artistes, hein, avec moi, ils m'ont rien fait. Hein, mais voilà, ça a l'air compliqué, mais en tout cas sur toutes les plateformes, et c'est vrai que c'est très très beau. Je parlais du Youssoupha parce que finalement, cette chanson qu'il fait pour vous dans la journée avec Balavoine germe dans son esprit et dans l'esprit de Didier Varro.
Exactement.
Le directeur musical des antennes de Radio France.
Ouais.
Une idée encore plus folle de se dire on va pas en faire une, on va en faire plein et on va faire un hommage à Daniel Balavoine au festival Maison, l'Hyper Weekend Festival. Donc c'est Youssoupha.
Et je serai invité.
Qui, voilà,
Youssoupha, c'est ça qui est
qui
génial.
Qui assure l'hommage à Balavoine. Ça s'appelle Amour Suprême pour Daniel Balavoine, puisque Amour Suprême, c'est le nom du dernier album de Youssoupha. Et donc, il aura des invités, dont voilà, et dont Soprano. J'avais pas le droit de le dire, mais c'est sorti tout seul. Il y aura plein de gens bien. Ouais. Et il reste quelques places. Donc voilà, si vous voulez réserver, c'est hyperweekendfestival.fr. Et ça se passera à Paris, justement, le week-end prochain. Et vous aussi, Nash, vous avez votre concert à vous. le 25 janvier, le dimanche, le dernier soir du festival. Qu'est-ce que vous nous préparez ?
Alors, je prépare une réinterprétation de mon répertoire, version électronique, avec des chœurs.
Alors moi j'adore Peau Neuve, qui est votre dernier album, qui est une merveille, qui est sorti en 2023.
Ouais.
Vraiment, je trouve que c'est un grand disque. Et alors, mais c'est toutes vos chansons
C'est plein. En fait, j'ai compilé des chansons qui me suivent depuis des années, des chansons de tous mes albums, et j'ai fait des versions électroniques. Et voilà, ça s'appelle L'âme électronique.
Ouais.
Et c'est un concert très dynamique qui réinvente ces chansons et qui les emmène ailleurs et en même temps qui révèle des choses. En fait, c'est génial parce que je redécouvre mes chansons et je les vis autrement.
Bah, ça fait un super pont avec Balavoine, ça, parce que quand on écoute son ultime album, Sauver l'amour, etc., on l'entend s'amuser avec des synthés.
Ouais.
Il était devenu geek de synthés, synthétiseurs, tout ça, c'était vraiment les débuts, et ça l'intéressait énormément. Donc,
gros geek,
bah,
geek, Balavoine,
évidemment.
Ouais.
Évidemment. Olivia Ruiz qui chante Quand on arrive en ville, c'est aussi à vous qu'on le doit, Nash. Alors, c'est parti.
Tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs. C'est l'heure où les honnards descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu aux buildings? C'est toujours les honnards. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. On arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Et quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville, prendre en attendant. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors préparez-vous pour la bagarre. Quand on arrive en ville, quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive en ville, prendre en attendant. Quand viendra l'an 2000, on aura 40 ans. Si on vit pas maintenant, demain il sera trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va peut-être tout casser. Si vous allez danser, ne rentrez pas trop tard, de peur qu'on égratigne vos jaguars. Préparez-vous pour la
évidemment la période Starmania, tellement importante pour Daniel Balavoine. Quelle comédie musicale géniale.
Incroyable.
Et là, le synthé, il défonce bien.
Ouais, c'est cool. Ouais, j'ai essayé de réinventer un peu les... en me disant, voilà, faut essayer des trucs.
L'âme électronique, c'est le nom du concert de Nash à l'Hyper Weekend Festival dimanche, pas celui-ci, celui d'après, dimanche 25 janvier. Vous avez toutes les infos sur hyperweekendfestival.fr. Ça se passe à Paris, à la Maison de la Radio. Mais l'âme électronique pourrait aussi partir en tournée à la fin de l'année,
Anna. On ne sait pas, peut-être. Ce serait super.
Évidemment, ce serait super. Alors, la période Starmania, on vient de l'entendre évoquer avec Olivia Ruiz qui chantait « Quand on arrive en ville », mais aussi le rapport de Daniel Balavoine avec sa voix. On en parlait tout à l'heure, c'est galère à chanter. Mais pour lui, ça a été galère à vivre, hein, d'avoir une voix aussi aiguë. Les critiques rock se moquent de lui et le laisser finalement à part du rock'n'roll à cause de ça. Hein.
Ouais, j'ai vu une interview de lui assez géniale où il disait qu'il en avait beaucoup pâti au début de sa voix et tout ça, et qu'en fait il s'était rendu compte assez vite que ça allait être sa force, et c'est cette voix un peu justement un peu originale, et d'ailleurs c'est sa signature, voilà, on le reconnaît direct.
Mais oui, et ça ne manque pas de virilité parce que c'est aigu, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un raccourci qui était fait souvent. Dans notre feuilleton documentaire sonore incroyable, vraiment je l'ai écouté et je me suis régalée, vous allez entendre ça dans 8 minutes exactement, ça va commencer. Vous entendrez aussi Daniel Balavoine parler de sa famille, de ses racines dans le sud-ouest. Il va parler de Dakar, de son engagement, ses coups d'éclat, ses énervements, plein de témoignages aussi de celles et ceux qui étaient proches de lui à l'époque, qui l'ont croisé dans le travail. Il y a évidemment aussi toute une partie qui est très triste, hein, sur sa mort. Et puis la génération Balavoine, ça je voulais vous demander, Nash, pour vous c'est qui alors la génération Balavoine? Est-ce que c'est justement ces jeunes des années 80 qui ont décidé de pas se laisser faire?
Je pense que la génération Balavoine c'est quelque part une espèce d'engagement comme ça dans la passion, la passion de vivre, dans la passion de créer, de partager, d'exprimer. Je pense que la génération Balavoine c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est avant-hier et c'est pour ça que c'est si puissant, c'est que cette énergie là en fait elle dépasse tout et elle est très puissante, elle est très fédératrice, et voilà, il y a plein d'auteurs-compositeurs, plein d'artistes qui ont cette passion, cette fureur de vivre et de créer et d'exprimer et de rassembler, et il y a beaucoup d'humanité aussi là-dedans.
Ouais. Vous l'avez dit, c'est demain, c'est hier, c'est avant-hier, c'est après-demain, la génération Balavoine. Et pour le coup, la dernière chanson qu'on va écouter avant le début de notre soirée, tout en son et en archives, bah, c'est un duo, pour le coup, multigénérationnel, puisqu'il y a votre papa, Louis Chédid, qui chante avec Louane.
Ouais.
La vie ne m'apprend rien. Pourquoi vous les avez mis ensemble tous les deux?
Bah justement pour raconter ça. Voilà, Balavoine ça traverse vraiment les générations, les âges, et c'est deux artistes que je trouve fabuleux.
Ouais.
Et je trouve qu'ils ont une douceur tous les deux, vraiment. Ils ont une bienveillance, une douceur, et voilà leurs voix qui sont assez suaves, assez rondes et tout ça. Et
ça a marché tout de suite.
Ouais, ça a marché tout de suite. J'ai trouvé ça très sensible et très doux. Et pour cette chanson, je trouvais ça beau.
Alors, on va l'écouter. Dieu que c'est beau, disait quelqu'un qui avait bon goût. La vie ne m'apprend rien par Louane et Louis Chédid. C'est sur l'album Une journée avec Balavoine. C'est également sur le replay donc de France Télévisions, si vous voulez voir les images de cette émission qui était vraiment réussie. Et ma chère Nash, Anna Chédid, on se dit à bientôt.
Avec plaisir.
Parce que si vous êtes à l'Hyper Weekend Festival, on y sera aussi. Et
avec joie.
On va aller vous applaudir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Daniel Balavoine à l'honneur ce soir. La vie ne m'apprend rien par Louane et Louis Chédid.
Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand? Qui peut changer ce que je porte dans mon sang?
Qui a le droit de m'interdire d'être vivant? De quel côté se trouvent les bons ou les méchants? Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant.
La vie ne m'apprend rien.
vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, prendre un chemin. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. À ceux qui croient que mon argent endort ma tête, je dis qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Ils croient peut-être que la liberté s'achète.
Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille quand leurs prêcheurs sont à l'abri?
J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin.
Version, on est d'accord, hein, par Louane et Louis Chédid, La vie ne m'apprend rien. Vous pourrez la retrouver, si le cœur vous en dit, avec tout un tas d'autres reprises sur l'album Une journée avec Balavoine, dont Nash, notre invité de ce soir, était la directrice musicale.
Ici.
Et